Chez les sunnites, on entend parler de quatre écoles, les malikites, les hanafites, les hanbalites, les chafiites. Pourquoi? À quoi elles servent? Sont-elles encore utiles aujourd'hui? Quelle est la différence entre elles? En fait, ces écoles sont arrivées au deuxième siècle, après l'arrivée et puis la mort du prophète. À ce moment-là, l'islam était en expansion et il y avait beaucoup de problèmes nouveaux qui se posaient, auxquels le gouvernement... Et puis, les gens voulaient apporter des solutions pour vivre dans les principes de la religion musulmane. C'est ainsi que ces quatre écoles sont apparues pour répondre, pour trouver des méthodologies qui permettent de trouver des solutions aux problèmes qui se posaient à tel ou tel moment. D'abord, il y a l'école Hanafite, fondée par l'imam Abu Hanifa, qui est né en 699 et décédé en 767. L'imam Abu Hanifa était basé en Irak. Et donc, il était confronté à des cultures diverses et à des problèmes divers. De l'autre côté, à cette époque, dans sa région, il y avait beaucoup de hadiths ou de traditions prophétiques qui étaient inventées par des politiques ou des gens qui voulaient promouvoir telle ou telle idéologie. Donc, il était difficile de se baser sur ces traditions prophétiques, d'autant qu'elles n'étaient pas encore compilées et accessibles. Alors, l'imam Abu Hanifa, pour répondre à cela, a utilisé l'analogie, la logique, la réflexion et ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort, trouver une réponse quand il n'y en a pas de direct. Donc c'est une école qui est plutôt rationnelle et c'est pourquoi elle est répandue dans les Balkans, en Turquie, en Irak, dans une partie de l'Égypte, parce que l'Empire ottoman, qui était très divers, l'a choisi pour sa flexibilité. L'école malikite, elle, a été fondée par l'imam Malik ibn Anas, qui est né en 711 et décédé en 795. C'est donc le contemporain de l'imam Abu Hanifa. Lui a une vision différente, parce qu'il vivait à Médine. Et Médine, c'était la ville du prophète. C'est là où la plupart des compagnons, en tout cas beaucoup d'entre eux, ont vécu. Et puis les générations suivantes également. Donc, il considérait qu'il pouvait tirer des avis juridiques en regardant les gens de Médine, leurs traditions, comment est-ce qu'ils vivaient, parce qu'ils ont connu, en quelque sorte, la source de l'islam. D'ailleurs, l'imam Malik, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir compilé des hadiths, donc des paroles prophétiques, mais également des paroles des personnes qui l'ont connu ou des générations suivantes, dans un livre qu'il appelait « Al-Muwatta », le facilité ou facilitateur, qui est encore connu jusqu'à aujourd'hui, ce qui lui a permis d'avoir un corpus sur lequel s'appuyer pour donner des avis, non seulement les gens qui vivaient dans sa ville, mais également les traditions qu'il avait pu récolter et compiler. Cette école est suivie aux Émirats, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, parce que traditionnellement, il y a eu du commerce entre ces régions. Et donc, cette école a pu se répandre facilement, grâce aux érudits qui voyageaient dans ces pays-là. L'école Shafi'ite a été fondée par l'imam Shafi'i, qui est né en 767. On remarque qu'il est né l'année où l'imam Abu Hanifa, celui qui a fondé la première école, est décédé. On peut signaler également qu'il a été l'élève de l'imam Malik, donc le fondateur de l'école malikite. Par contre, comme tout élève digne de ce nom, il a divergé avec son maître, l'imam Shafi'i, est connu comme étant celui qui a formalisé la manière de tirer des règles, non seulement à partir du Coran, mais également à partir de la Sunna, donc la tradition, les paroles prophétiques, sa manière de vivre. C'est une école qui s'est propagée en Indonésie, en Malaisie, dans une partie de l'Égypte. Pareil, parce qu'ayant cette alliance entre raison et tradition, elle permettait de répondre à certaines problématiques de chacune de ces régions et ont transmis cette école aux habitants. L'école Hanbalite, fondée par l'imam Ahmad ibn Hanbal, est plutôt connue dans la péninsule arabique. C'est une école qui est plutôt conservatrice, qui est sceptique face à l'usage de la raison dans les questions de foi et qui interprète les textes fondateurs de l'islam plutôt de manière littéraliste. On parle de ces quatre écoles, c'est celles qui sont les plus connues, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Simplement, leurs élèves n'ont pas fait le travail. Et aujourd'hui, on n'a pas reçu leur héritage et leur méthodologie. Ces écoles sont différentes entre elles, tout en respectant un cadre fondamental. Ce qui permet d'apporter beaucoup de diversité dans la pensée musulmane, beaucoup de champs, et qui nous permet de répondre à beaucoup de problèmes. Par exemple, des questions médicales, Comment est-ce que l'islam peut répondre au don d'organes, par exemple? Comment l'islam va penser l'intelligence artificielle? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont traitées par le fiqh, la jurisprudence musulmane, à travers donc ces quatre prismes principaux dont on a parlé aujourd'hui. Notez 5 étoiles le podcast, et puis enregistrez une évaluation, ça prend 2 secondes, et ça aide les algorithmes à recommander ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas le partager à au moins une personne de vos connaissances? On se retrouve demain, Inch'Allah.